La petite sirène d'Andersen, troisième partie. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'elle vit le château du prince. Elle s'assit sur la côte et but l'élixir. Ce fut comme si une épée affilée lui traversait le corps. Elle s'évanouit et resta comme morte. Le soleil brillait déjà sur la mer lorsqu'elle se réveilla, éprouvant une douleur cuisante. Mais en face d'elle était le beau prince, qui attachait sur elle ses yeux noirs. La petite sirène baissa les siens. Et alors elle vit que sa queue de poisson avait disparu, et que deux jambes blanches et gracieuses la remplaçaient. Le prince lui demanda qui elle était et d'où elle venait. Elle le regarda d'un air doux et affligé, sans pouvoir dire un mot. Puis le jeune homme la prit par la main et la conduisit au château. Chaque pas, comme avait dit la sorcière, lui causait des douleurs atroces. Cependant, au bras du prince, elle monta l'escalier de marbre, légère comme une bulle de savon, et tout le monde admira sa marche gracieuse. On la revêtit de soie et de mousseline, sans pouvoir assez admirer sa beauté, mais elle restait toujours muette. Des esclaves habillés de soie et d'or chantaient devant le prince les exploits de ses ancêtres. Elle chantait bien, et le prince les applaudissait en souriant à la jeune fille. S'il savait, pensa-t-elle, que pour lui j'ai sacrifié une voix plus belle encore. Après le chant, les esclaves exécutèrent une danse gracieuse au son d'une musique charmante. Mais lorsque la petite sirène se mit à danser, élevant ses bras blancs et se tenant sur la pointe des pieds, sans toucher presque le plancher, tandis que ses yeux parlaient au cœur mieux que le chant des esclaves, tous furent ravis en extase. Le prince s'écria qu'elle ne le quitterait plus jamais et lui permit de dormir à sa porte sur un coussin de velours. Tout le monde ignorait les souffrances qu'elle avait endurées en dansant. Le lendemain, le prince lui donna un costume d'Amazone pour qu'elle le suivît à cheval. Ils traversèrent ainsi les forêts parfumées, et gravirent les hautes montagnes. La princesse, tout en riant, sentait saigner ses pieds. La nuit, lorsque les autres dormaient, elle descendit secrètement l'escalier de marbre et se rendit à la côte pour rafraîchir ses pieds brûlants dans l'eau froide de la mer. Et le souvenir de sa patrie revint à son esprit. Une nuit, elle aperçut ses sœurs se tenant par la main. Elles chantaient si tristement en nageant que la petite sirène ne put s'empêcher de leur faire signe. L'ayant reconnue, elles lui racontèrent combien elle leur avait causé de chagrin. Toutes les nuits, elles revinrent, et une fois, elles amenèrent aussi la vieille grand-mère, qui, depuis nombre d'années, n'avait pas mis la tête hors de l'eau, et le roi de la mer avec sa couronne de corail. Tous les deux étendirent leurs mains vers leur fille, mais ils n'osèrent pas, comme ses sœurs, s'approcher de la côte. Tous les jours, le prince l'aimait de plus en plus, mais il l'aimait comme on aime une enfant bonne et gentille, sans avoir l'idée d'en faire sa femme. Cependant, pour qu'elle eût une âme immortelle et qu'elle ne devînt pas un jour un peu d'écume, il fallait que le prince épousât la sirène. Ne m'aimes-tu pas mieux que toutes les autres? Voilà ce que semblaient dire les yeux de la pauvre petite, lorsque, la prenant dans ses bras, il déposait un baiser sur son beau front. Certainement, répondit le prince, car tu as meilleur cœur que toutes les autres. Tu m'es plus dévouée, et tu ressembles à une jeune fille que j'ai vue un jour, mais que sans doute je ne reverrai jamais. Me trouvant sur un navire qui fit naufrage, je fus poussée à terre par les vagues, près d'un couvent habité par plusieurs jeunes filles. La plus jeune d'entre elles me trouva sur la côte, et me sauva la vie, mais je ne la vis que deux fois. Jamais dans le monde je ne pourrai aimer une autre qu'elle. Eh bien, tu lui ressembles. Quelquefois même, tu remplaces son image dans mon âme. Hélas, pensa la petite sirène, il ignore que c'est moi qui l'ai portée à travers les flots, jusqu'au couvent, pour le sauver. Il en aime une autre. Cependant, cette jeune fille est enfermée dans un couvent, elle ne sort jamais. Peut-être l'oubliera-t-il pour moi qui l'aimerais et lui serais dévouée toute ma vie. Le prince va épouser la charmante fille du roi voisin, dit-on un jour. Il équipe un superbe navire sous prétexte de rendre seulement visite au roi, mais la vérité est qu'il va épouser sa fille. Cela fit sourire la sirène, qui savait mieux que personne les pensées du prince, car il lui avait dit « Puisque mes parents l'exigent, j'irai voir la belle princesse, mais jamais ils ne me forceront à la ramener pour en faire ma femme. » Je ne puis l'aimer. Elle ne ressemble pas comme toi à la jeune fille du couvent, et je préférerais l'épouser, t'épouser, toi, pauvre enfant trouvé, aux yeux si expressifs, malgré ton éternel silence. Le prince partit. En parlant ainsi, il avait déposé un baiser sur sa longue chevelure. J'espère que tu ne crains pas la mer, mon enfant, lui dit-il sur le navire qui les emportait. Puis il lui parla des tempêtes et de la mer en fureur, des étranges poissons et de tout ce que les plongeurs trouvent au fond des eaux. Ses discours la faisaient sourire, car elle connaissait le fond de la mer mieux que personne, assurément. Au clair de la lune, Lorsque les autres dormaient, assis sur le bord du vaisseau, elle plongeait ses regards dans la transparence de l'eau et croyait apercevoir le château de son père et sa vieille grand-mère les yeux fixés sur la carène. Une nuit, ses sœurs lui apparurent. Elle la regardait tristement et se tordait les mains. La petite les appela par des signes et s'efforça de leur faire entendre que tout allait bien. Mais au même instant, le mousse s'approcha et elles disparurent en laissant croire au petit marin qu'il n'avait vu que l'écume de la mer. Le lendemain, le navire entra dans le port de la ville où résidait le roi voisin. Toutes les cloches sonnèrent, la musique retentit du haut des tours, et les soldats se rangèrent sur leurs drapeaux flottants. Tous les jours, ce n'était que fêtes, bals, soirées, mais la princesse n'était pas encore arrivée du couvent, où elle avait reçu une brillante éducation. La petite sirène était bien curieuse de voir sa beauté, elle eut enfin cette satisfaction. Elle dut reconnaître que jamais elle n'avait vu une si belle figure, une peau si blanche et de grands yeux noirs si séduisants. « C'est toi !» s'écria le prince en l'apercevant. « C'est toi qui m'as sauvé la vie sur la côte !» Et il serra dans ses bras sa fiancée rougissante. « C'est trop de bonheur » continua-t-il en se tournant vers la petite sirène. « Mes vœux les plus ardents sont accomplis. Tu partageras ma félicité, car tu m'aimes mieux que toutes les autres. » L'enfant de la mer baisa la main du prince, bien qu'elle se sentît le cœur brisé. Le jour de la noce de celui qu'elle aimait, elle devait mourir et se changer en écume. La joie régnait partout. Des héros annoncèrent les fiançailles dans toutes les rues au son des trompettes. Dans la grande église, une huile parfumée brûlait dans les lampes d'argent. Les prêtres agitaient les encensoirs. Les deux fiancés se donnèrent la main et reçurent la bénédiction de l'évêque. Habillée de soie et d'or, la petite sirène assistait à la cérémonie. Mais elle ne pensait qu'à sa mort prochaine et à tout ce qu'elle avait perdu dans ce monde. Le même soir, les deux jeunes époux s'embarquèrent, au bruit des salves d'artillerie. Tous les pavillons flottaient au milieu du vaisseau, se dressait une tente royale d'or et de pourpre, où l'on avait préparé un magnifique lit de repos. Les voiles s'enflèrent, et le vaisseau glissa légèrement sur la mer limpide. À l'approche de la nuit, on alluma des lampes de diverses couleurs, et les marins se mirent à danser joyeusement sur le pont. La petite sirène se rappela alors la soirée où, pour la première fois, elle avait vu le monde des hommes. Elle se mêla à la danse, légère comme une hirondelle, et elle se fit admirer comme un être surhumain. Mais il est impossible d'exprimer ce qui se passait dans son cœur. Au milieu de la danse, elle pensait à celui pour qui elle avait quitté sa famille et sa patrie, sacrifié sa voix merveilleuse et subi des tourments inouïs. Cette nuit était la dernière où elle respirait le même air que lui, où elle pouvait regarder la mer profonde et le ciel étoilé. Une nuit éternelle, une nuit sans rêve l'attendait, puisqu'elle n'avait pas une âme immortelle. Jusqu'à minuit, la joie et la gaieté régnèrent autour d'elle. Elle-même riait et dansait, la mort dans le cœur. Enfin, le prince et la princesse se retirèrent dans leur tente. Tout devint silencieux, et le pilote resta seul debout devant le gouvernail. Petite sirène, appuyée sur ses bras blancs au bord du navire, regardait vers l'orient, du côté de l'aurore. Elle savait que le premier rayon du soleil allait la tuer. Soudain, ses sœurs sortirent de la mer, aussi pâles qu'elles-mêmes. Leurs longues chevelures ne flottaient plus au vent. On l'avait coupée. « Nous l'avons donnée à la sorcière, » dirent-elles, pour qu'elle te vienne en aide et te sauve de la mort. Elle nous a donné un couteau bien affilé que voici. Après le lever du soleil, il faut que tu l'enfonces dans le corps du prince. Et lorsque son sang, encore chaud, tombera sur tes pieds, ils se joindront et se changeront alors en une queue de poisson. Tu redeviendras sirène. Tu pourras redescendre dans l'eau près de nous. Et ce n'est qu'à l'âge de 300 ans que tu disparaîtras en écume. Mais dépêche-toi, car avant le lever du soleil, il faut que l'un de vous demeure. Tue-le et reviens. Vois-tu cette raie rouge à l'horizon? Dans quelques minutes, le soleil paraîtra, et tout sera fini pour toi. » Puis, poussant un profond soupir, elles s'enfoncèrent dans les vagues. La petite sirène écarta le rideau de la tente, et elle vit la jeune femme endormie, la tête appuyée sur la poitrine du prince. S'approcha d'eux, s'inclina, et déposa un baiser sur le front de celui qu'elle avait tant aimé. Ensuite, elle tourna ses regards vers l'aurore, qui luisait de plus en plus. Regarda alternativement le couteau tranchant, et le prince, qui prononçait en rêvant le nom de son épouse, leva l'arme d'une main tremblante et la lança loin, dans les vagues. Là où tomba le couteau, des gouttes de sang semblèrent rejaillir de l'eau. La sirène jeta encore un regard sur le prince et se précipita dans la mer, où elle sentit son corps se dissoudre en écume. En ce moment, le soleil sortit des flots. Ses rayons doux et bienfaisants tombaient sur l'écume froide, et la petite sirène ne se sentait pas morte. Elle vit le soleil brillant, les nuages de pourpre, et au-dessus d'elle flottaient 1000 créatures transparentes et célestes. Leurs voix formaient une mélodie ravissante, mais si subtile, que nulle oreille humaine ne pouvait l'entendre, comme nul œil humain ne pouvait voir ces créatures. L'enfant de la mer s'aperçut qu'elle avait un corps, semblable au leur, et qui se dégageait peu à peu de l'écume. « Où suis-je » demanda-t-elle avec une voix dont aucune musique ne peut donner l'idée. « Chez les filles de l'air, » répondirent les autres. « La sirène n'a point d'âme immortelle, et elle ne peut en acquérir une que par l'amour d'un homme. Sa vie éternelle dépend d'un pouvoir étranger. Comme la sirène, les filles de l'air n'ont pas une âme immortelle, mais elles peuvent en gagner une par leurs bonnes actions. Nous volons dans les pays chauds, où l'air pestilentiel tue les hommes, pour y ramener la fraîcheur. Nous répandons dans l'atmosphère le parfum des fleurs. Partout où nous passons, nous apportons des secours, et nous ramenons la santé. Lorsque nous avons fait le bien pendant 300 ans, nous recevons une âme immortelle, afin de participer à l'éternelle félicité des hommes. Pauvre petite sirène, tu as fait de tout ton cœur les mêmes efforts que nous. Comme nous, tu as souffert. Et, sortie victorieuse de tes épreuves, tu t'es élevée jusqu'au monde des esprits de l'air, où il ne dépend que de toi de gagner une âme immortelle par tes bonnes actions. » La petite sirène, élevant ses bras vers le ciel, versa des larmes pour la première fois. Les accents de la gaieté se firent entendre de nouveau sur le navire. Mais elle vit le prince et sa belle épouse regarder fixement avec mélancolie l'écume bouillonnante, comme s'il savait qu'elle s'était précipitée dans les flots. Invisible, elle embrassa la femme du prince, jeta un sourire à l'époux, puis monta avec les autres enfants de l'air sur un nuage rose qui s'éleva dans le ciel.